Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Cette émission Regarde ailleurs donne la parole à ceux que je rencontre sur mon itinéraire de photographe voyageur, des personnes que je trouve souvent inspirantes, belles par leur choix de vie. Et je me suis arrêté dans un monastère bouddhiste, le monastère de l'Erabling, où j'ai rencontré Jigme, un moine suisse qui a choisi de vivre ici dans ce temple pour suivre la voie du bouddhisme tibétain. J'ai adoré prendre le temps d'échanger avec lui pour en savoir plus sur ses choix de vie. Donc voilà, on est dans un petit chalet. Je suis avec Jigme au temple de l'Erabling, donc on va prendre le temps de se rencontrer pour poser une dimension un peu visuelle à l'auditeur qui nous écoute. Donc sur la table, un café, du thé, du chocolat, une bibliothèque à ma gauche avec plein de livres, donc notamment sur le bouddhisme. Donc Jigme, toi tu es lama?
Je suis simplement moine, oui. Moine de tradition tibétaine, bouddhiste de tradition tibétaine, oui.
La différence entre un moine et un lama?
Alors un lama, c'est un enseignant, quelqu'un qui partage les enseignements du Bouddha, et un moine, c'est quelqu'un qui a pris des vœux monastiques. Alors on connaît bien sûr le Dalai Lama, qui est un moine et qui aussi donne des enseignements, et certains moines ne donnent pas forcément d'enseignements. Donc moi, je me considère simplement comme un moine.
Ok, Jigme. Et bon, on va revenir un peu sur ton histoire, sur ton parcours, parce que t'as pas l'air très tibétain d'apparence. Alors peut-être dans ton cœur, si, mais j'imagine qu'à un moment donné, donc tu es suisse hein, d'origine. Comment est-ce qu'on en devient à choisir la vie monastique en suivant les préceptes du bouddhisme tibétain? Donc je veux bien que tu reviennes un peu sur ton itinéraire de vie personnel et qu'on voit ensemble ce qui s'est passé dans ton parcours.
Donc je suis né effectivement en Suisse, dans la région de Fribourg. Donc je suis né à Fribourg et ensuite j'ai vécu pas mal de temps à Genève. Et puis quand j'étais jeune, mon père m'a donné à l'âge de 13 ans des bases, les premières instructions de méditation que j'ai reçues à l'âge de 13 ans dans la tradition zen, la tradition japonaise, une des traditions japonaises. Et par la suite, bien sûr, ayant reçu ces enseignements, je les ai mis un petit peu en application, et puis la vie a fait, en grandissant, que je les ai un petit peu oubliés, mis de côté. Et vers l'âge de 25 ans, j'ai eu de gros problèmes de santé, et je suis revenu à ces fondamentaux dans la tradition bouddhiste en général. J'ai beaucoup lu, j'avais du temps pour découvrir un petit peu, pour essayer de chercher ce qui allait m'intéresser. Et puis j'ai très rapidement eu j'ai senti un contact assez privilégié avec la tradition tibétaine et principalement le personnage du Dalai Lama qui m'a beaucoup touché. Pourquoi ? Parce que je trouvais que avec tout ce que ce peuple a vécu, l'invasion chinoise, les difficultés de l'occupation chinoise par la suite, la réponse principale qui a été donnée, c'était une réponse pacifique. Et je me suis dit, tiens, si ces gens qui ont vécu des choses extrêmement difficiles peuvent travailler avec leur esprit, avec leur cœur, en essayant de trouver des solutions, mais d'une manière pacifique, je pense que leur message est quand même extrêmement profond et vaut la peine d'être découvert. Donc je me suis mis un peu à chercher. Bien sûr, j'avais une formation professionnelle, j'étais bien ancré dans la vie à l'époque, dans la vie mondaine, comme on va l'appeler. Mais donc par la suite, je me suis d'abord intéressé à la cause politique tibétaine. J'ai fait partie de quelques mouvements de soutien au peuple tibétain. Je me suis retrouvé dans des manifestations devant les ambassades chinoises, à Berne ou à Genève. Et j'étais engagé de ce côté-là. Et puis petit à petit, on organisait aussi dans l'association dont je faisais partie, on organisait des enseignements de différents lamas qui passaient par la Suisse. Et de fil en aiguille, en recevant ces enseignements, j'ai vu que ça m'a touché et que et que c'était un choix de vie qui me correspondait. Et finalement, j'ai fait une retraite de 3 ans, après avoir bien sûr reçu des enseignements, après avoir un peu assis les préceptes dans la tradition bouddhiste. J'ai fait le saut, j'ai fait une retraite de 3 ans et je me suis installé ici à l'Érablingue, dans le sud de la France, près de Montpellier. Et après la retraite de 3 ans, j'ai été ordonné par le Dalai Lama. Je suis donc devenu moine à ce moment-là. Ça fait maintenant 15 ans que j'habite ici et ça fait presque un peu plus de 11 ans que je suis moine. Ouais.
Donc au tout début, c'était vraiment la sympathie pour la cause tibétaine hein, qui t'a amené vers la philosophie, vers la spiritualité du bouddhisme. Tu disais, tu te retrouvais devant les ambassades à faire des manifestations avec différentes ONG. Donc on va peut-être quand même le rappeler dans cette émission. Donc en 59, le Dalai Lama a dû fuir le Tibet, hein, est parti en exil, a traversé l'Himalaya pour créer un gouvernement en exil qui aujourd'hui est basé à Dharamsala, Makleoganj, dans le nord de l'Inde, dans les montagnes himalayennes, et n'a depuis 1959 jamais pu retourner au Tibet, qui est aujourd'hui une province chinoise.
Voilà, effectivement, le Tibet est maintenant considéré comme étant une province chinoise, oui.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Donc militant de première heure, tu rencontres cette philosophie, cette sagesse. Tu choisis de faire une retraite de 3 ans. Et tu deviens moine, mais c'est un choix quand même qui est assez radical dans une vie.
Donc effectivement, je vous avais dit un peu plus tôt que j'avais eu des problèmes de santé quand j'étais assez jeune. Et là, je pense que ça m'a les priorités sont devenues assez claires. J'ai ressenti un message très profond qui me disait soit change ou soit il y a des chances que tu vas mourir. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui est important dans la vie? Est-ce que c'est vraiment important de passer ma vie à vraiment m'impliquer dans une société orientée vers le travail ou vers le fait d'accumuler des biens matériels? Ou est-ce que je veux simplement vivre peut-être un peu plus simplement? Même beaucoup plus simplement, mais simplement essayer de travailler un petit peu sur mon esprit, essayer de devenir un peu une meilleure personne, en tout cas essayer de le faire. Mais à ce moment, le choix était assez rapide, oui.
Vivre simplement pour que tous puissent simplement vivre, Gandhi. Tu parles de problèmes de santé, de ce qu'on peut dire que la spiritualité t'a guéri ou t'a soigné. Je vois pas comment est-ce que le fait de choisir une voie spirituelle et monastique peut guérir ou peut soigner.
Oui, j'attribuerais pas forcément le fait de suivre une voie spirituelle à la guérison, mais ça m'a aidé à relativiser, effectivement, à relativiser énormément de choses. Donc, avoir moins de stress, par exemple, se faire moins de soucis par rapport à certaines situations. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui n'ont pas de prix parce que ça amène une forme de paix intérieure, une forme de bien-être. Et quand on est bien avec soi-même, j'imagine que ça a un lieu, ça peut être, ça va avoir un impact sur notre santé physique aussi, mais pas forcément. On a les gènes qu'on a, donc on n'est pas forcément égaux par rapport à la maladie. Je dirais pas que l'un et l'autre sont liés, mais il y avait vraiment un besoin important de changement de vie, effectivement.
Une forme de recentrage.
Voilà, une forme de recentrage, oui.
Qu'est-ce que c'est être moine tibétain?
Être moine tibétain dans la tradition tibétaine, parce que moi je ne suis pas un moine tibétain, je suis un moine suisse. C'est d'abord de prendre des vœux monastiques. Des vœux qui vont nous permettre de simplifier énormément notre vie. On va dire que 50% de nos problèmes vont être éliminés en prenant des vœux monastiques, mais 25% de nouveaux problèmes vont être ajoutés. Donc le gain va être de 25%, ce qui est pas mal déjà en fait. Donc on va prendre ces vœux-là et ensuite on va simplement créer de l'espace, de l'ouverture pour pouvoir étudier et pratiquer dans la tradition bouddhiste. Et comme on a une vie de célibat aussi, comme ça se fait aussi dans certaines traditions chrétiennes, comme dans l'orthodoxie ou dans le catholicisme.
C'est ça les 50% de problèmes en moins ?
Ça, je ne sais pas, je ne saurais pas vous le dire, je ne veux pas trop m'avancer. Mais le fait de s'habiller, par exemple, tous les jours de la même manière, c'est quand même beaucoup plus simple que de passer un peu de temps à faire du shopping et à se demander ce qu'on va porter. Tout simplement ça, par exemple. Ouais. Mais le fait de ne pas avoir une vie de famille, j'entends d'avoir une famille, des enfants, etc., ça amène pas mal ça libère quand même pas mal de temps et ça permet d'être plus présent pour d'autres personnes aussi, effectivement. Ouais.
Je veux bien que tu reviennes sur ces 50% de problèmes en moins et 25% de bénéfices. Donc, qu'est-ce qu'on perd et qu'est-ce qu'on gagne en devenant moine ?
On gagne beaucoup, beaucoup de temps. On gagne beaucoup de... La vie est beaucoup plus simple. On a beaucoup moins de projections par rapport aux personnes qu'on rencontre, par exemple. Pourquoi ? Parce que on a moins d'attentes. Et je pense que les autres ont peut-être aussi moins d'attentes envers nous-mêmes. Donc, je pense que les liens sociaux sont plus clairs, à mon avis. Donc ça, c'est très agréable d'une certaine manière. D'une autre part, les difficultés qu'il peut y avoir, c'est par exemple le fait de ne pas manger après le repas de midi, par exemple. C'est un des vœux qu'on prend de ne pas manger le soir. Et ça, c'est pas toujours facile, par exemple. Ou le fait de ne pas avoir... bien sûr aussi de vie amoureuse, c'est quand même quelque chose qui est pas facile non plus à aborder. Le fait de pas boire d'alcool, par exemple, un bon petit verre de rouge avec un bon fromage et un bout de pain, c'était un repas que j'adorais. Maintenant, il n'y a plus que le fromage et le pain. Mais en fait, on voit aussi que c'est des petites choses qui sont pas si importantes finalement. C'est pas ça peut être des petits plaisirs mais passagers comme ça, mais finalement au fil et à mesure que le temps passe, on voit que c'est pas les choses les plus importantes dans la vie aussi.
Est-ce qu'on peut revenir sur les vœux qu'on a faits ?
Alors dans la tradition tibétaine, on prend des vœux monastiques pour la vie. Donc quand on s'engage à prendre des vœux monastiques, on les prend pour la vie, ce qui n'est pas forcément le cas dans toutes les traditions bouddhistes, dans la tradition thaïlandaise par exemple, ou Theravada, on peut prendre des vœux monastiques pour une journée par exemple, même, ou pour une semaine, ou un mois, ou une année. Dans la tradition monastique tibétaine, c'est pour la vie. Mais par contre, si on voit qu'on n'arrive pas à tenir ses vœux, on peut aussi les rendre. Donc il vaut mieux rendre ses vœux plutôt que les briser. Et ça se fait assez régulièrement. Une fois qu'on a rendu ses vœux, on peut les reprendre deux fois. Deux fois, ouais.
On va simplement donc aborder peut-être les différents types de bouddhisme. Tu parles de bouddhisme thaïlandais, bouddhisme tibétain. Donc on parle de Himayana et Mahayana, un petit véhicule et grand véhicule. Est-ce que tu peux simplement débroussailler tout ça, nous expliquer les différents types de traditions bouddhistes ?
Alors je pense que c'est d'abord important de revenir à la source. La source de ces enseignements, c'est le Bouddha. Le Bouddha qu'on appelle parfois Shakyamuni. Shakyamuni, ça veut dire le sage du clan des Shakya, qui est un royaume qui se situe dans le nord de l'Inde ou le sud du Népal actuel. Et c'est lui qui a commencé à enseigner cette voie il y a 2600 ans. Et puis, par la suite, il y a eu des différents courants qui ont apparu. Puisque, bien sûr, le bouddhisme s'est diffusé en Inde, mais aussi au Sri Lanka, dans le nord, au Tibet, bien sûr, et puis en Chine, en Corée, jusqu'au Japon, par exemple, et maintenant aussi un peu partout dans le monde, même ici en France. Et au fur et à mesure que effectivement, ce chemin a pris un petit peu de l'ampleur et de l'essor, et à découvrir d'autres cultures, eh bien, il s'est aussi associé à ces cultures en prenant une image un peu plus culturelle d'un pays à l'autre. Le message est quasiment le même dans toutes les différentes traditions, mais aussi, bien sûr, comme on est des êtres humains, on a des appréciations qui sont différentes, donc on va peut-être mettre l'emphase plus sur l'étude ou plus sur la pratique pour certaines écoles. Et d'autre part, on va dans les écoles du véhicule fondamental, comme on l'appelle aujourd'hui, ou le véhicule dans la tradition Theravada, on mettra plus l'emphase aussi sur la libération pour soi, tout en ayant aussi, bien sûr, une approche d'aide envers autrui. Le véhicule du Mahayana, ou le grand véhicule qui est présent dans le Nord, principalement en Chine, en Corée, au Japon, etc. Principalement l'emphase sur la libération de soi-même pour aider autrui aussi. Il y a ces deux aspects. L'aspect de la sagesse où on veut libérer se libérer soi-même, se libérer de la souffrance, mais aussi aider les autres. Une fois qu'on s'est libéré soi-même, on deviendra plus utile pour les autres. Et dans la tradition tibétaine, qui est principalement ancrée aussi dans le véhicule du adamantin ou le vajrayana, il y a des moyens habiles qui sont un peu différents. On va réciter des mantras, par exemple, mais l'intention est la même. L'intention de souhaiter atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres est l'approche principale.
As sure as the river runs to the sea, one day, one day, one day, the land of snow, Tibet will be free, one day, one day, one day, and if you can see it in your mind, there's no stopping what will be. Picture it, know it's true, Tibet will be free, Tibet will be free.
Avec toi dans le temple l'Erabling, quelque part dans l'Hérault, hein, pas trop loin de l'Odev. Mais je me posais la question, oui, tu parlais avant des vœux. Est-ce que tu peux me parler des vœux à faire quand on choisit de devenir moine?
Oui, il y a les vœux monastiques, les vœux d'un moine complètement ordonné sont très nombreux. Il y a plus de 200 vœux, en fait, vœux monastiques. Mais en fait, c'est une discipline, une forme d'éthique qui est présente non seulement dans le bouddhisme, mais aussi dans toutes les traditions. En fait, dans la vie, c'est une forme de c'est aussi quelque chose qui est ancré dans notre société. Le vœu de ne pas tuer, par exemple. Le vœu de ne pas mentir. Le vœu de ne pas se faire souffrir. Il y a un aspect dans la tradition monastique aussi, le vœu de ne pas avoir des relations sexuelles, par exemple. Donc voilà un petit peu tout ce qui... Donc ces vœux sont liés au corps et à la parole. Donc ça, c'est quelques vœux principaux, mais qu'on retrouve aussi dans d'autres traditions, bien sûr dans la tradition chrétienne, mais aussi... dans notre société de tous les jours, en fait.
Et comment ça s'est passé? Donc, tu as fait le choix de partir en Inde, à Dharamsala, dans ce but où tu étais en voyage en Inde. C'était la première fois que tu allais là-bas. Est-ce que tu peux revenir un peu sur cette époque de ta vie?
Ça se fait de manière assez simple, d'une certaine manière. il faut simplement. Moi, ça faisait déjà un peu plus d'une dizaine d'années que je suivais les enseignements bouddhistes. Je sortais d'une retraite de 3 ans. Et en fait, ensuite, j'ai pris contact avec le bureau le bureau privé du Dalai Lama, qui organise des ordinations chaque année à Dharamsala, effectivement. Je connaissais l'Inde, j'y étais déjà allé quelques fois, donc j'arrivais pas en terre inconnue.
Tu y avais été dans le passé, dans quel but, dans quel cadre?
Par plaisir, et aussi pour passer un peu de temps aussi dans la communauté tibétaine. À l'époque où à l'époque je faisais aussi des parrainages dans ce qui s'appelle les TCV, Tibetan Children Village, c'est-à-dire des villages d'enfants orphelins qui sont organisés et pris en charge par le gouvernement tibétain en exil et qui permettent de donner une éducation à des enfants qui ont perdu leurs parents. Et là, on peut sponsoriser des enfants, on peut sponsoriser des projets aussi. Et là, ça m'a permis aussi d'aller visiter, de voir comment ça se faisait sur place.
Donc ça, c'était avant l'ordination et avant ta vie monastique. Voilà. Hein, c'était plutôt en tant que voyageur, mais déjà avec un intérêt particulier pour le bouddhisme.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Et ensuite, donc, on ne peut pas vraiment prendre des vœux monastiques comme ça du jour au lendemain. C'est un petit peu difficile. Donc, ce qui est proposé par le Dalai Lama, c'est d'abord de faire une retraite pendant un mois où on va apprendre les règles de la vie monastique et apprendre à se comporter comme un moine aussi. Et apprendre les vœux aussi.
Donc tu es libre de quitter la communauté ici, à la Sangha, comme tu veux, quand tu veux, pour voyager la durée que tu souhaites.
Voilà, oui, tout à fait, il y a une grande ouverture par rapport à ça. Pour autant que ça ne mette pas en difficulté aussi le fonctionnement ici à l'Erabling.
Je me pose une question d'ordre économique. Hein. Tu disais avoir une vie simple ici, donc quelque part, bah voilà, t'as pas la question du vêtement. Hein. Tu portes la robe la même tous les jours, que tu laves bien sûr entre-temps, mais tu as plein de petites préoccupations matérielles qu'on n'a pas quand on choisit la vie monastique, mais comment est-ce que tu souviens quand même économiquement à tes besoins? Comment ça se passe quand on est moine?
Ici, alors, on a la chance d'être très bien pris en charge. On est logé, on est nourri, et puis les frais d'assurance sont pris en charge, ce qui correspond à la sécurité sociale, donc. Donc, et puis on a un petit peu d'argent de poche par mois, donc ce qui nous permet de subvenir à nos besoins essentiels. Voilà, donc c'est OK. Et ensuite, moi j'ai un petit peu d'argent de côté, donc ça me permet j'utilise cet argent pour voyager aussi un peu, pour aller trouver ma famille par exemple, pour rentrer en Suisse aussi. J'ai plus la chance d'avoir mes parents, ils sont décédés dernièrement, mais j'ai eu la chance de pouvoir aussi les accompagner, de passer du temps avec eux quand ils étaient en fin de vie, et d'être là pour prendre soin d'eux quand ils avaient besoin de moi. Donc ça, c'était aussi une grande chance.
Je veux bien qu'on parle de ce point-là, de la mort. Après, là, j'ai à côté de moi le livre tibétain de la vie et de la mort de Sogyal Rinpoche, qui est, je crois, relativement lié ici à l'Erabling, on en parlera un peu plus tard. Une question que je me pose à titre personnel, le bouddhisme, spiritualité ou religion?
Alors ça, c'est une question franco-française. Mais c'est intéressant, il faudrait mettre des définitions sur le mot spiritualité, il faudrait mettre une définition sur le mot religion. Parfois on dit aussi, est-ce que le bouddhisme est une religion ou une philosophie? On peut aussi se poser cette question. Je pense qu'il y a tous ces aspects qui sont présents dans le bouddhisme. Quand on pose la question au Dalai Lama, je l'ai entendu répondre de cette manière. Il dit ceci, il dit, semble-t-il, que pauvre bouddhiste, ni une philosophie, ni une religion, mais plutôt une science de l'esprit. Donc il y a cet aspect de transformation de l'esprit qui est vraiment important dans l'essence du bouddhisme.
On peut peut-être dire, dis-moi si je me trompe, mais c'est plus de l'ordre de la philosophie pour le laïc qui va s'intéresser aux textes, qui va lire des bouquins sur le bouddhisme, mais c'est peut-être plus une religion pour celui qui va réellement faire les choix, comme toi, de vœux monastiques.
C'est une façon de voir les choses. Moi, je pense qu'il faudrait voir. Un jour, j'avais discuté avec un prêtre et je lui avais demandé quelle est la définition étymologique du mot religion? Et il m'a dit, c'est, ça vient, il m'a donné le nom latin que j'ai oublié, mais ça vient du fait de se relier à, se relier en fait pour le christianisme à Dieu, par exemple. Dans le bouddhisme, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de notion de Dieu, en tout cas pas de notion de Dieu créateur. Donc, dans le bouddhisme, on ne va pas se relier à une déité extérieure qui va nous amener à une forme de libération. La libération vient de nous-mêmes. Il n'y a que nous qui pouvons arriver à nous libérer de la souffrance et des causes de la souffrance. Et elle ne peut pas venir de l'extérieur. Par contre, le Bouddha et son enseignement nous montrent le chemin qui nous, à cette cessation. C'est cette cessation de la souffrance. D'ailleurs, le Bouddha disait « Je vous montre le chemin, mais je ne peux pas vous libérer, c'est à vous de le suivre. » Et vous êtes vous-même, c'est vous qui allez vous libérer. Et non pas, elle ne va pas venir de l'extérieur, cette libération.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Je te demandais si le bouddhisme était une philosophie, une spiritualité ou une religion. Tu as eu cette réponse que j'aime beaucoup, c'est une science de l'esprit. Mais si je te pose la question, qui est Dieu ou où est Dieu? Quelle est ta vision ou ta définition de Dieu?
Oui, ben justement dans le bouddhisme, il n'y a pas de notion de Dieu. Il n'y a pas de notion de Dieu créateur. Mais par contre, on peut se dire, il y a une notion peut-être un peu plus profonde. Faudrait se poser la question, qu'est-ce que Dieu, effectivement? Est-ce que c'est un personnage barbu comme ça à l'extérieur, ou c'est quelque chose de beaucoup plus profond? Est-ce que c'est quelque chose qui est relié avec notre bonté fondamentale, avec notre véritable nature, qui est présente, cette sagesse qui est présente en chacun de tout le monde? Dans ce cas-là, nous, on donnerait la définition de Dieu comme étant... la véritable nature de notre esprit, cette bonté fondamentale qui est présente en chacune d'entre nous. Donc là, on peut faire des ponts, on peut se relier avec d'autres traditions, j'imagine. Mais il faut toujours être très prudent quand on veut créer des liens, quand on entre, par exemple, dans le dialogue interreligieux. C'est vraiment important d'être bien ancré dans sa propre tradition et de pas être trop dans le... C'est important de ne pas voir les vues qui nous séparent ou les vues différentes qu'on peut avoir, mais c'est plus important de voir ce qui nous relie. Et les messages principaux qu'on trouve dans toutes les traditions, c'est les messages d'amour, de bienveillance, de compassion, qui sont vraiment des traits d'union qui sont extrêmement forts. Et c'est par là qu'il faut se relier.
J'en reviens au grand sujet de la vie, qu'est la mort. Tu me disais que tu as perdu tes parents, mais tu les as accompagnés. Quels enseignements tu aurais envie de partager ici avec nous sur ce sujet tabou, en fait, qu'est la mort?
Je pense que parfois on se dit, mais comment faire? Qu'est-ce qu'il faut faire avec quand on accompagne ou quand on est proche d'une personne en fin de vie? Et c'est, je pense, la mauvaise question qu'on se pose. Je pense qu'à ce moment-là, il faut cesser de faire et il faut plutôt être. Il faut être présent. Il faut accompagner. C'est intéressant, quand on est proche de personnes en fin de vie, quand on n'est pas juste et qu'on n'est pas vraiment présent pour la personne, on reçoit En tout cas, moi, j'ai reçu des messages très forts des personnes que j'accompagnais qui me disaient « Mais là, qu'est-ce que tu fais, quoi ? C'est pas ça dont j'ai besoin. J'ai juste besoin que tu me tiennes la main. Ou j'ai juste besoin que tu me fasses un café, que tu me fasses un petit massage ou des choses toutes simples, en fait. » Donc, quand on est dans l'accompagnement des personnes en fin de vie, il faut vraiment être présent, il faut être dans l'écoute. Et il faut un peu s'abandonner, quoi. Simplement un peu s'abandonner et puis, et puis demander ce dont la personne a besoin, parce qu'il y a cette sagesse tout à fait ordinaire. Et si on est présent pour écouter cela, alors ça peut vraiment aider la personne qui vit ces moments douloureux, parce que la mort, c'est aussi la douleur, c'est la souffrance. Ça peut être la souffrance physique, mais je crois que grâce au merveilleux personnel soignant, ça peut être pris en charge, surtout avec les soins palliatifs, par exemple. Il y a vraiment de très très bons moyens pour atténuer, si ce n'est éliminer, la souffrance physique. Mais il n'y a pas que la souffrance physique, il y a aussi la souffrance de perdre tout ce qu'on a, en fait. Tout ce qu'on est aussi. Au moment de la mort, on va perdre tout ce qu'on est, on va perdre notre statut social, on va perdre nos capacités physiques, on va perdre notre compte en banque, on va perdre notre famille, on va perdre notre ami, on va perdre tout ce qu'on a et tout ce qu'on est. Donc il peut y avoir des moments difficiles, ça peut être accompagné par des formes de frustration et de peur, d'angoisse même. Et là, pour quelqu'un qui n'a pas une force intérieure, c'est parfois vraiment, vraiment très, 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 très difficile à vivre. Et là, ce qu'on peut être, ou en tout cas ce qu'on peut offrir en tant qu'accompagnant, c'est ce soutien, c'est cette paix, c'est cette bienveillance, c'est surtout cet amour que chacun d'entre nous avons besoin, en fait. Mm-hmm.
Je te repose la question, donc elle est très naïve, mais pourquoi est-ce qu'on a peur de mourir ?
Moi, je pense qu'on a d'abord peur de l'inconnu. On a peur de l'inconnu, on a peur de ce qui nous attend, et on a peur de... Je pense qu'il y a... Il y a, il y a, un, il y a un, on perd le contrôle quand on est en train de... Quand on est en fin de vie, on perd tout contrôle. Tout ce qu'on a... Tout ce qu'on était capable de manipuler quand on en avait encore... quand on est en pleine possession physique et mentale de nos... Eh bien, on perd tout ça. Et ça, c'est pas facile de perdre le contrôle.
Merci, Jigme.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Merci à tous pour votre écoute. L'émission que vous venez d'entendre s'appelle « Regarde d'ailleurs ». Ce podcast donne la parole à ceux que je rencontre sur les routes du monde dans le cadre de mon activité de photographe voyageur. Je pars de l'idée qu'une personne, le parcours de vie d'une personne peut en inspirer beaucoup d'autres et j'aime pouvoir récupérer tous ces témoignages souvent très inspirants. Belle journée à tous !